This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Click en audio pour ce podcast « Viens voir les docteurs », un podcast présenté par Clément Viktorovitch. « Viens voir les docteurs », c'est une émission qui aborde les grands enjeux de notre société en compagnie de chercheurs, d'universitaires et de scientifiques pour poser tranquillement et sereinement les données du débat. Tous les épisodes de « Viens voir les docteurs » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Click, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission sur Click TV. Chaque mois, nous allons parler d'un des grands enjeux de notre société et nous le faisons en invitant des chercheurs, des universitaires, des scientifiques pour poser tranquillement, sereinement et précisément les données du débat. On commence dès aujourd'hui avec peut-être la plus grande question qui est devant nous, le péril climatique. Sommes-nous à l'aube d'un grand effondrement ? C'est parti pour ce premier numéro de Viens voir les docteurs. Réchauffement climatique, réchauffement de la planète, péril écologique, c'est un des sujets dont on parle beaucoup et peut-être le sujet le plus important auquel la politique soit confrontée aujourd'hui. Alors, qu'en penser ? Que nous dit la science, que nous dit la recherche sur ce sujet ? C'est une question essentielle et nous sommes très, très honorés d'en parler avec vous, Jean Jouzel. On est très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes climatologue, médaille d'or du CNRS, membre des académies des sciences françaises, européennes et américaines. Vous êtes depuis des années un acteur majeur du débat sur le changement climatique. Merci beaucoup d'être venu sur Click TV dans Viens voir les docteurs. Merci Jean Jouzel.
Merci Clément de m'avoir invité, bien sûr.
Alors, j'aimerais vous poser une première question et peut-être que vous êtes une des personnes les mieux à même d'y répondre. Jean Jouzel, est-ce que la Terre se réchauffe ?
Oui. Moi, j'aime bien reprendre le diagnostic de la communauté scientifique tel qu'il est délivré à travers le rapport du GIEC. Le réchauffement est sans équivoque. Donc, en fait, par rapport au réchauffement climatique, nous sommes dans un domaine où il y a des certitudes. Il y a aussi, disons, des incertitudes. On se pose des questions sur certains points. Il y a quand même deux certitudes. C'est que le climat se réchauffe et, en fait, que nos activités ont modifié la composition de l'atmosphère et qu'il y a un lien entre les deux, nous pourrons en discuter, bien sûr.
D'accord. Donc, j'ai une première courbe, c'est la courbe de l'augmentation globale de la température à la surface de la Terre. Est-ce que cette courbe résume tout ? Est-ce que, au fond, je regarde cette courbe et je sais que la Terre se réchauffe ?
Elle ne résume pas tout, elle est importante pour vous, pour moi, parce que c'est quand même à la surface de la planète que nous vivons, Clément, donc c'est intéressant. Quand on regarde ces températures, eh bien, si on les regarde en détail, en fait, les 5 dernières années, on le sait maintenant, auront été les plus chaudes que nous connaissons depuis 150 ans. En fait, disons que le réchauffement climatique, ce n'est pas année après année. On voit qu'il y a des... puisqu'il y a aussi une variabilité naturelle. Donc par exemple, le phénomène El Niño, quand l'océan Pacifique est plus chaud que la normale, ça se traduit également au niveau planétaire. Donc l'année la plus chaude, par exemple, l'année record à l'échelle planétaire, c'est 2016. Eh bien, c'était une année où le phénomène El Niño était important. 98 était une année aussi un peu plus chaude que la tendance. Mais globalement, quand on regarde décennie après décennie, chaque décennie est plus chaude que la précédente depuis les années 50. Et pratiquement, actuellement, nous prenons de l'ordre de 2 dixièmes de degré par décennie. Ce qui est important, vous me dites à juste titre, je m'intéresse à ces aspects, depuis une cinquantaine d'années maintenant, j'ai commencé à m'intéresser au climat dans les années 70, commencé ma thèse en 1968 au CEA, et j'y suis toujours. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui était envisagé en termes de rythme de réchauffement il y a 30 ans, justement, dans le premier rapport du GIEC. Mais pourquoi ça ne nous dit pas tout ? Pourquoi ce n'est pas forcément la chose la plus importante? C'est parce que le phénomène de l'effet de serre, c'est-à-dire cette modification de la composition de l'atmosphère qui est liée à notre production d'énergie, qui est liée à l'agriculture, eh bien, elle se traduit par une augmentation de l'énergie disponible dans le système climatique. Alors, le système climatique, c'est l'atmosphère, là où on vit, mais aussi l'océan de surface, les glaces, on en parle beaucoup, et puis les surfaces continentales. En fait, on a augmenté le chauffage, cette énergie de l'ordre de 1%, mais de ce 1% d'énergie supplémentaire, il n'y a qu'une petite fraction de l'ordre de 1% qui est utilisée dans l'atmosphère. En fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. Et c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe dans l'océan.
Alors, quand on dit que la température augmente, on parle de la température de l'atmosphère, on ne parle pas de la température des océans, c'est bien ça?
Si on regarde en détail, le réchauffement est moins rapide à la surface de l'océan qu'il ne l'est dans les continents. Dans les continents, par exemple en France, eh bien, quand on a parlé d'un réchauffement global d'un degré depuis le début du XXe siècle, il est plutôt d'un degré et demi en France. Y compris depuis ma jeunesse en Bretagne, quand on regarde les courbes, on a déjà pris un degré et demi depuis les années 60 en France. Donc il est encore beaucoup plus important dans les régions polaires, en Arctique, où il est deux fois plus élevé que la moyenne. Donc quand on parle d'un réchauffement moyen, ce que vous avez montré, ça intègre toute la surface de la planète, en notant bien que ce réchauffement n'est pas de la même amplitude partout. Partout, ça se réchauffe, mais ça se réchauffe un peu moins vite dans l'océan, un peu plus vite sur les continents et beaucoup plus vite sur les régions de l'hémisphère nord en particulier, parce que les surfaces de glace et surfaces de neige diminuent et remplacent des surfaces réfléchissantes par des surfaces absorbantes.
Alors, je vous pose une question naïve. Elle est naïve, mais je ne crois pas qu'elle soit bête, parce qu'il n'y a pas de question bête.
Non.
On dit que le climat se réchauffe, vous venez de parler d'un degré, un degré et demi, vous dites, au pôle, c'est deux fois plus important. Moi, quand je me lève le matin et qu'il fait 2 degrés de plus que la veille, ma vie n'est pas bouleversée. Est-ce que c'est beaucoup à l'échelle du climat, 2 degrés ?
Oui, c'est déjà beaucoup quand on parle de 2 degrés en moyenne. Ce sont, par exemple, alors, les records de température vont augmenter deux fois plus rapidement que les températures moyennes, trois fois plus rapidement la nuit. Donc, cela se traduit de façon très claire par des records de température qu'on bat année après année. Disons, il y a une trentaine d'années, il y a vraiment longtemps que je fais des conférences, et peut-être pour répéter toujours les mêmes choses, mais il y a une trentaine d'années, on souriait gentiment quand on parlait de température en France qui pourrait dépasser 45 degrés. On y est. Des records de température, je ne parle bien, il faut bien faire attention. On a battu ce record de température, et maintenant, bien, quand on va parler de records de température qui pourraient dépasser 50 degrés, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, il ne faut pas trop sourire, parce que vraiment, voilà. Donc, 2 degrés, c'est déjà quelque chose de relativement important. D'ailleurs, un rapport du GIEC paru l'an dernier montre que chaque demi-degré compte. C'est-à-dire que, par exemple, à 2 degrés, eh bien, l'ensemble des récifs coralliens tropicaux équatoriaux seraient affectés. Donc alors, pour nous, c'est peut-être un peu loin, mais quand même, on a quand même des territoires ultramarins qui sont riches de leurs récifs coralliens. On voit bien que c'est quand même une conséquence. Alors, peut-être que quand on se lève, vous, moi, on ne le sentira pas, effectivement, il y a une capacité d'adaptation en France, mais c'est tout le problème et c'est tout l'objectif, disons, le bon sens de nos politiques quand même, qui ont accepté, qui ont mis sur la table cet objectif d'un maintien du réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. C'est l'idée que si on y arrivait, eh bien, on pourrait s'y adapter au moins pour l'essentiel. Mais justement, je reviens à cette première caractéristique, pas pour tout. Parce que quand on parle de l'océan, quand on parle par exemple de l'élévation du niveau de la mer, en tout état de cause, elle sera d'au moins 50 cm supplémentaires. Et permettez-moi quand même de revenir à votre question. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Est-ce qu'il suffit de regarder la température dans la courbe de température que nous avons montrée, qui est très explicite, qui est très claire, qui est aussi très claire pour la France, hein ? La France, le record de température, c'est 2018. Mais dans l'océan, c'est là que les choses se passent, parce que l'essentiel de la chaleur supplémentaire va dans l'océan. Et donc, en fait, l'océan, ça se traduit par cette élévation du niveau de la mer, à peu près 3 mm chaque année, ça s'est accéléré. 1 mm est lié à l'expansion thermique de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis pratiquement l'essentiel du reste à la fonte des glaces. Alors à la fois les glaciers continentaux, mais aussi les calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland.
Alors justement, très concrètement, pour les gens qui nous regardent, la courbe pessimiste, c'est une élévation de la température de 4 degrés, je crois. C'est à peu près la trajectoire 4, sur laquelle on est. 4-5 degrés, ouais. Si on change rien. Très concrètement, 4-5 degrés, qu'est-ce que ça représente? En pratique, ce serait quoi les conséquences?
Donc, d'abord, je donne une image qui, bon, enfin, moi, qui m'est assez familière parce que mon domaine de recherche sont les données du passé. Donc, en fait, il y a 20 000 ans, c'est ce que vous avez appris à l'école quand même, Clément, il y a 20 000 ans, il y avait une période glaciaire.
Tout à fait.
Voilà, il y avait une période glaciaire, le climat était complètement différent de celui dans lequel nous vivons. Je dirais que nos ancêtres vivaient dans des grottes et on comprend pourquoi, parce que c'était difficile de vivre à l'extérieur, ils se protégeaient comme ils pouvaient. Une large partie du nord de l'Europe était couverte de glace, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et la température moyenne était de probablement 4 à 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui.
Vous voulez dire que 4 degrés? C'est ce qui nous sépare, c'est ce qui sépare notre climat d'une ère glaciaire, de l'ère glaciaire il y a 20 000 ans.
Exactement, mais ce que nous faisons actuellement, nous faisons la même chose, nous imposons la même chose à notre planète, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Et c'est ça la difficulté. On ne pourra pas s'adapter si ce réchauffement est extrêmement rapide, si nous ne le maîtrisons pas. La capacité d'adaptation sera très difficile. Par exemple, 4 à 5 degrés de plus, ce sont certaines régions qui deviendraient invivables, en ce sens que, il serait très difficile, d'avoir des activités à l'extérieur. C'est quand même des régions où il faudrait, la seule façon d'y vivre serait effectivement de vivre peut-être de nouveau dans des grottes, vous voyez, donc en tout cas protégé du climat extérieur. Ça modifie complètement le rythme des précipitations et certaines régions deviendraient plus sèches, d'autres plus humides, le nord de l'Europe, plus de précipitations l'hiver, et donc quand même pas beaucoup d'intérêt, sauf des risques accentués d'inondations. Et puis, l'été, moins de précipitations, surtout le pourtour méditerranéen. C'est vrai pour la France, donc ça affecterait une large partie de la France, mais aussi sur le nord de l'Afrique. Et là, on peut penser à une accélération des flux migratoires, puisque certaines régions ne pourront plus assurer leur sécurité alimentaire si elles deviennent de plus en plus sèches. Donc il y a des conséquences, on peut les énumérer, on peut regarder sur la perte de biodiversité qui serait accélérée, et bien sûr sur les extrêmes climatiques qui deviendraient plus extrêmes, ce qui est déjà perceptible.
Est-ce qu'on est sûr que ce que vous décrivez, et que l'augmentation actuelle de la température, est-ce qu'on est sûr que c'est de notre faute, à nous humains? Est-ce que c'est vraiment lié à notre activité?
Alors c'est une question qui est au cœur de... Autant j'ai essayé de vous dire, pour moi, il y a deux certitudes, il y a trois certitudes dans notre domaine. Le réchauffement est une réalité. Nous modifions la composition de l'atmosphère, donc, et en fait, nous augmentons le chauffage, je dirais, nous augmentons l'énergie disponible, et le réchauffement va se poursuivre. Il y a une question entre les deux qui est importante, et qui est celle, est-ce que le réchauffement qu'on vit aujourd'hui est lié aux activités humaines? On peut le poser d'une autre façon. Quelle est la part dans ce réchauffement liée aux activités humaines? Quelle est la part d'origine naturelle? Et en fait, c'est la question que nous nous posons depuis 30 ans. Nous avons pris notre temps, c'est-à-dire dans le premier rapport du GIEC, à cette question, est-ce que nous sommes déjà responsables du réchauffement? En 90, comme il émergeait tout juste, la réponse est on ne sait pas. En 95, c'est un ensemble d'éléments qui suggèrent une influence perceptible des activités humaines sur le climat, très prudent. Très prudent, mais ça a quand même conduit, c'était quand même à l'origine, je crois, largement du protocole de Kyoto. En 2001, à cette réponse, on dit que il y a plus de 2 chances sur 3 que les activités humaines soient à l'origine du réchauffement, plus de 9 chances sur 10 en 2005, et vraiment une quasi-certitude, 95 chances sur 100, dans le dernier rapport du GIEC en 2013-2014. Et on va plus loin. C'est-à-dire, de façon très claire, dans ce dernier rapport du GIEC, on regarde le réchauffement sur les 60 dernières années, d'à peu près, deux tiers de degré, un peu plus maintenant, un peu moins d'un degré, nous montrons de façon claire que l'ensemble de ce réchauffement peut être attribué aux activités humaines. Tandis que les causes naturelles de réchauffement climatique, évidemment, il y en a à chaque, par exemple, à chaque éruption volcanique importante, il y a un refroidissement qui dure quelques années, de quelques dizaines de degrés, puis après ça recommence. Il y a aussi la variabilité de l'activité solaire. Ces causes naturelles ne peuvent expliquer qu'un dixième de degré au maximum. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans un monde, quasi convaincu dans un monde dont nous modifions le climat. Et nous pensons même que nous sommes à l'origine de l'essentiel du réchauffement climatique des dernières décennies.
Alors, Jean Jouzel, moi je vous écoute. Et la question que je me pose, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi est-ce que moi, qui suis un citoyen, qui ne suis pas un scientifique, en tout cas je ne suis pas du tout climatologue, pourquoi est-ce que moi je dois davantage vous faire confiance à vous et faire confiance au rapport du GIEC éco-scientifique climato-sceptique qui donne des interviews, publie des livres pour nous expliquer que tout va bien et qu'en fait ça ne se réchauffe pas tant que ça.
Donc pourquoi ? Bien justement, il faut peut-être prendre un peu de temps pour regarder les arguments. Et c'est clair que tous les points que les climato-sceptiques ont mis en avant ont été argumentés. Nous prenons notre temps dans le rapport du GIEC, je l'ai, je crois, bien montré sur cette progression du diagnostic par rapport au rôle des activités humaines. Donc le climato-scepticisme, donc le scepticisme en général, est quelque chose de tout à fait légitime. Et donc c'est quand même à nous, et c'est, je crois, ce que nous faisons vraiment, d'apporter les arguments. Et franchement, quand on regarde il n'y a pas chez les climato-sceptiques un seul argument qui tienne la route par rapport à la réalité du réchauffement climatique, par rapport à leur cause, à leur origine humaine, on peut toujours discuter, mais la variation de l'activité solaire, ce qui est dit encore par certains, que la variation de l'activité solaire serait à l'origine du réchauffement climatique, est complètement faux. D'abord, cette variabilité solaire, d'activité solaire, ça ne va pas dans le bon sens sur la dernière décennie. Et puis, il faut quand même bien comprendre, ce que nous avons fait en termes d'énergie, on a augmenté l'énergie disponible de 3 watts par mètre carré par l'augmentation de l'effet de serre, et la variation de ce qui est lié à l'activité solaire, c'est 1/10 de watts par mètre carré. Donc il faut bien comprendre que ce que nous avons fait en termes d'énergie est 30 fois plus important que la variabilité de l'activité solaire sur la période récente. Elle est un peu plus importante, même si on parle de quelques dixièmes de watts par mètre carré sur une période plus longue. Et c'est ça qui est à l'origine, malheureusement, du fait que progressivement, eh bien, les activités humaines ont pris le pas sur cette variabilité naturelle liée à la variation de l'activité solaire. Donc c'est très clair, les arguments qui sont là, on peut débattre, mais voilà, donc je ne crois pas que les climato-sceptiques aient un seul argument par rapport à celui du rôle de l'activité humaine qui est, je crois, bien argumenté actuellement. Mais c'est à nous aussi d'être proactifs, de mettre ces arguments sur la table.
Justement, Jean-Jouzel, moi, il y a une vidéo que je voulais vous montrer, c'est une déclaration d'un homme qui est un homme important, puisque c'est Donald Trump, le président des États-Unis. Et regardez ce que Donald Trump dit du réchauffement climatique.
So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
Donc, le réchauffement climatique, c'était un canular pour faire de l'argent. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Bon, c'est vraiment de la sous-politique, je veux dire par là. Ce n'est quand même pas très raisonnable pour le leader du plus grand pays de la planète de dire cela, alors que quand on regarde justement la communauté scientifique, mes collègues des États-Unis sont très actifs. Hein. Moi-même, je suis à l'Académie des sciences des États-Unis, et effectivement, dans cette académie, il n'y a pas de climato-scepticisme, c'est très clair. Donc, je ne crois pas dire que le réchauffement n'est pas là, c'est quasiment un mensonge. Il y a le réchauffement. Alors, il pourrait dire qu'il n'attribue pas aux activités humaines, mais dire qu'il n'y a pas réchauffement, et on en voit d'ailleurs quand même, alors il y a quand même une accélération des événements extrêmes aux États-Unis en termes on peut parler des incendies de Californie, de cyclones de plus en plus violents, de ces précipitations de plus en plus importantes qui sont associées à ces cyclones, encore dernièrement sur Houston. Je ne dis pas, en fait, nous sommes très prudents pour faire un lien entre ces événements et les activités humaines, mais que le climat ne change pas, il change aux États-Unis comme il change dans d'autres pays. En nier la réalité est quelque chose qui n'est pour moi pas, qui n'a aucun sens. Et on voit bien, honnêtement, dans le cas de Donald Trump, ce n'est pas un scepticisme, je dirais, scientifique, c'est un scepticisme politique. Ce sens, que ce qui l'intéresse, c'est de dire continuons comme avant, continuons à nous développer comme nous l'avons toujours fait.
Alors, Greta Thunberg, la militante écologiste, qui était auditionnée devant le Congrès américain en septembre, le fait que ce soit une jeune femme de 16 ans qui soit obligée de dire aux membres du Congrès « écoutez les scientifiques », est-ce que ça vous désespère ou est-ce qu'au contraire ça vous enthousiasme ?
Oui, d'abord, moi, ça m'enthousiasme parce que, le résultat, c'est quand même une mobilisation qui s'est fait jour au cours des derniers mois et qui a quand même déjà eu des résultats. Hein. Donc, c'est important, effectivement. On me demandait récemment, mais pourquoi ? Donc, c'est vrai que je suis impliqué dans cette, depuis, une cinquantaine d'années, dans cette disons, étude de l'évolution de notre climat, pourquoi on n'a pas été audible, et bien peut-être qu'il nous a manqué une Greta Thunberg au cours des dernières décennies pour effectivement dire à tous les décideurs politiques, nous l'avons dit je crois à notre façon, mais peut-être de façon pas assez claire, et bien que c'était la science qui devait être, disons, la base quand même des décisions des politiques.
Il vous aura peut-être manqué, Jean Jouzel, et vous, les scientifiques, une Greta Thunberg ces 20 dernières années. Aujourd'hui, on en a une, et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça aura un impact sur les débats politiques à venir.
Je l'espère vraiment, oui. Parce que c'est important, cette prise de conscience et cette réalité. C'est vraiment, les jeunes d'aujourd'hui sont doublement concernés, comme Greta Thunberg, parce que, disons, en cas d'inaction, eh bien, ce sont ces jeunes d'aujourd'hui qui auront à faire face aux conséquences des réchauffements climatiques dans la deuxième partie de ce siècle. Ils sont aussi concernés par l'action, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Ce sont les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, dans la vie active, qui vont jouer un rôle très important au cours des prochaines décennies dans la lutte contre le réchauffement climatique, j'en suis persuadé.
Et les conséquences du réchauffement climatique et les actions à prendre, on en parle justement tout de suite dans la deuxième partie de Viens voir les docteurs. Merci beaucoup, merci infiniment Jean Jouzel d'être venu nous voir.
Merci beaucoup Clément.
Merci. On se retrouve pour la deuxième partie de Viens voir les docteurs. On vient de parler de l'état du monde et du climat. On s'interroge sur l'avenir. Quel monde demain? Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quelles solutions évoquer? Et en quoi le passé, l'histoire peut nous renseigner sur ce qui vient? Et pour cela, on est très heureux, très honoré de recevoir François-Marie Bréon. François-Marie Bréon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur adjoint du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et vous êtes membre du GIEC.
J'ai été auteur du 5e rapport du GIEC.
Félicitations, on est très honorés de vous avoir parmi nous. Avec vous, nous sommes heureux et honorés de recevoir Jean-Baptiste Fressoz. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Mmh. Avec vous deux, on va s'intéresser donc sur ce monde à venir. Première question, et j'ai envie de vous la poser à vous, François-Marie Bréon. Quelles solutions sont possibles? Est-ce qu'il existe des solutions pour parer au réchauffement climatique?
Donc ce qu'on a bien vu dans la première partie de l'émission, c'est que le changement climatique actuel, il est essentiellement lié à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et en particulier du dioxyde de carbone. Donc si on veut limiter, si on veut stabiliser le climat, il faut absolument réduire ces émissions et éventuellement aller jusqu'à des émissions qui sont quasi nulles au milieu du siècle. Donc ça veut dire...
C'est possible.
Ça veut dire diminuer notre consommation d'énergie fortement et en fait de diminuer notre consommation d'énergie carbonée. Donc ça, il y a deux manières de faire. Enfin non, il y a trois manières de faire. On peut avoir d'une part la sobriété. La sobriété, ça veut dire moins consommer, moins se déplacer, avoir des...
Alors attendez, François-Marie Bréon, avant d'aller sur cette question qui est essentielle, pour les gens qui nous regardent et pour qui ce n'est pas forcément évident, pourquoi est-ce qu'on fait toujours ce lien entre d'une part le réchauffement climatique et d'autre part la consommation d'énergie? Quel est le lien entre ces deux questions?
Parce que l'essentiel de l'énergie qui est consommée dans le monde aujourd'hui est de l'énergie fossile, c'est du charbon, du gaz naturel, du pétrole. Et chaque fois qu'on utilise ces combustibles fossiles, on les brûle et ça met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc il n'y a absolument aucun doute qu'il y a un lien direct entre la consommation d'énergie carbonée et la croissance des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a quelques énergies qui ne sont pas carbonées, donc qui n'ont pas le même impact. C'est par exemple l'hydroélectricité, qui a été utilisée depuis très longtemps. Il y a aussi le bois énergie, c'est-à-dire que quand on prend le bois d'une forêt et que cette forêt est renouvelée, c'est aussi finalement neutre pour ce qui est du carbone dans l'atmosphère. Et puis il y a des énergies renouvelables, tout le monde a entendu parler de l'éolien, du photovoltaïque, et puis il y a l'énergie nucléaire. Voilà, donc d'un côté, il y a des énergies non carbonées, mais l'essentiel...
Le problème, c'est l'énergie fossile.
Voilà, okay. Et c'est sachant que 80% de l'énergie qui est consommé dans le monde aujourd'hui, c'est de l'énergie fossile.
Alors l'énergie fossile, c'est quoi exactement?
Donc c'est le charbon, le gaz naturel et le pétrole, avec les différentes formes. Hein. Le pétrole, c'est de l'essence, c'est le kérosène pour les avions, c'est le fuel pour se chauffer.
Alors, est-ce qu'on peut résumer en disant que si on arrive à réduire drastiquement notre consommation d'énergie fossile, donc de pétrole, de charbon, de bois, est-ce qu'on a résolu le problème du réchauffement climatique?
Oui, en gros c'est ça, ça revient à ça. Vous avez mentionné le bois alors que j'avais dit que ce n'était pas une ressource fossile.
Okay.
Donc j'exclus le bois, mais si on arrive à annuler nos consommations de charbon, pétrole et gaz,
okay.
Effectivement, là on aura quasiment résolu le problème du changement climatique. Il y a un petit problème avec l'agriculture aussi, qui émet du méthane et du protoxyde d'azote, sur lequel il va falloir travailler aussi. Mais à la limite, c'est du deuxième ordre par rapport à ce dont on vient de parler.
Alors, ça, c'est une question intéressante. Et je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Tressos, parce que en préparant cette émission, moi, j'ai trouvé cette courbe qui m'a glacé le sang. On voit les émissions de CO2 par énergie depuis le 19e siècle. Et on se rend compte que à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle énergie, par exemple le pétrole après le charbon, le gaz naturel après le pétrole, à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle énergie, elle s'est rajoutée finalement aux énergies existantes, elles ne l'ont pas remplacée. Mm-hmm. Donc, Jean-Baptiste Fressos, vous êtes historien. Mm-hmm. À l'échelle de l'histoire, la transition énergétique, ça existe ?
Bah, en fait, vous avez déjà donné la réponse en grande partie. Non, en fait, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire, le discours contemporain se focalise sur l'idée de transition énergétique, mais ça n'a pas de référent historique. On pourrait croire que, bon, on a déjà fait des transitions dans le passé, et donc le système capitaliste va arriver à gérer une transition, sachant qu'on aurait déjà l'exemple de la révolution industrielle. Mais en fait, la révolution industrielle, par exemple, ce n'est pas du tout le passage du bois au charbon. On continue de consommer du bois au 19e siècle, et même, c'est l'inverse. C'est-à-dire, avec le charbon, on consomme de plus en plus de bois, ne serait-ce que parce que les technologies du 19e siècle, par exemple les mines, il y a besoin de tonnes de bois d'œuvre pour extraire le charbon. Donc en fait, les énergies, elles ne se substituent pas les unes les autres, elles sont plutôt dans un rapport symbiotique, c'est-à-dire quand il y en a une qui croît, l'autre va croître aussi. Donc historiquement, c'est un peu ça la chose qui rend pessimiste. En fait, je ne suis pas de nature pessimiste, mais c'est vrai qu'en tant qu'historien des techniques, on a du mal à imaginer une transition énergétique très brève. En tout cas, ce n'est pas que c'est impossible, mais en tout cas, ça n'a absolument jamais été réalisé.
Ça veut dire que le défi qui est devant nous, c'est un défi auquel l'histoire, pour l'instant, n'a pas eu à répondre et donc n'a pas répondu.
Exactement.
Je me permets de poser la question. Quand même, en France, à un moment, on a développé le nucléaire pour que l'électricité soit, en fait, indépendante d'une certaine manière. Et il me semble qu'on a moins consommé de fuel et de pétrole à ce moment-là en France, parce qu'avant, on utilisait pas mal ces combustibles pour l'électricité. Mmh. Donc je pense que c'est un petit exemple, hein, c'est quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents, mais il y a quand même eu ça.
Il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, le cas français est complètement atypique.
On est d'accord.
C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, le nucléaire, effectivement, c'est l'épaisseur du trait, ce que vous disiez, c'est quelques pourcents, de 3-4% du mix énergétique global. On est vraiment sur des choses qui ne sont pas du tout à l'échelle du changement climatique. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quand on regarde les émissions de CO2 de la France dans les années 80-90, quand on investit des milliards et des milliards dans le programme nucléaire, elle continue d'augmenter bon an, mal an, moins rapidement qu'avant, ça c'est vrai, c'est lié au choc du pétrole essentiellement, mais elle continue d'augmenter.
Ah ça, on va y venir, mais en fait, là on est sur quelque chose d'intéressant quand on parle du réchauffement climatique. La première chose, j'ai l'impression, et vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'il faut penser les effets d'échelle. C'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, à l'échelle d'un pays, des transitions énergétiques ont déjà eu lieu. Effectivement, en France, on a fait en grande partie notre transition énergétique avec une énergie dans laquelle il y a une plus grande part de nucléaire aujourd'hui, par exemple.
On a fait une transition électrique hein, mais n'oublions pas que tous les autres, pour tout le reste, pour le chauffage des maisons, pour le transport, on est resté sur du pétrole essentiellement. Donc sur une petite composante, on a fait une transition, mais pas sur l'ensemble.
Mais la question, c'est à l'échelle d'un pays, certes, mais quand on regarde à l'échelle mondiale, là, c'est là où les données sont effrayantes et c'est là où les données sont sans appel. Et est-ce qu'on a le droit de dire par ailleurs que en France, certes, déjà, les émissions de CO2 ont eu tendance à baisser ces 10 dernières années, même si elles sont reparties à la hausse, je crois, ces 3 dernières années. Donc, certes, en France, on peut dire qu'on montre un chemin et on peut dire qu'on a fait une partie de la transition énergétique. Mais on l'a fait à quel prix ? Au prix d'une désindustrialisation. On a délocalisé une partie de notre industrie polluante en Chine, et puis après la Chine, le Bangladesh. Donc, au fond, est-ce qu'on a le droit vraiment de dire qu'on a fait une transition énergétique ? Est-ce que notre consommation de charbon, est-ce que notre consommation de gaz, on ne l'a pas simplement délocalisée dans d'autres pays ?
Je pense qu'on peut dire quand même qu'on a montré qu'il était possible d'apporter une énergie abondante, peu carbonée. Mais de là à dire qu'on a fait l'ensemble de la transition énergétique en France, ça serait complètement faux. La France reste un pays qui est essentiellement fossile. Voilà, il faut bien le dire. Et peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a réussi à décarboner. On a réussi à décarboner l'électricité, mais il y a encore plein de choses qui seront beaucoup plus difficiles à décarboner. Donc on n'a pas fait l'ensemble du travail, loin de là. Et en plus, vous avez eu bien raison d'insister sur le fait qu'on a délocalisé beaucoup d'industries fossiles et que quand on regarde les émissions nationales, la France est bon élève, mais en fait, il y a tellement de produits, les importations, en fait, ça revient à dire que nos émissions, elles sont faites ailleurs. Et on est, une fois qu'on prend en compte les importations, la France n'est pas une si bonne élève que ça.
Jean-Baptiste Fressos ?
Moi, ce qui m'embête, la manière dont on parle de ces affaires-là, c'est qu'on parle seulement en termes de sources énergétiques, c'est-à-dire qu'on pense que le problème essentiel, c'est la source, les sources d'énergie qu'on va mettre, des éoliennes, du nucléaire ou du solaire ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, le sujet, c'est vraiment la consommation, c'est-à-dire que, et même historiquement, ça, on peut le montrer, c'est-à-dire ce qui fait vraiment des changements dans le système énergétique, c'est des transformations dans la consommation qui appellent ensuite des nouvelles sources d'énergie. Chose toute simple, on se met à faire des centrales électriques au charbon parce qu'on a des lampes à bulbes inventées par Edison, on se met à extraire beaucoup de pétrole parce qu'il y a le moteur à explosion, etc. Donc il faut vraiment penser que c'est la consommation qui est motrice et pas se focaliser sur la production d'énergie. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers le cas français, en fait, on discute de choses pas très intéressantes, parce qu'on va discuter du nucléaire, qui, une fois encore, n'est pas du tout à l'échelle, qui coûte très cher. Bon, ça, c'est un autre problème, c'est que c'est plus compétitif. Ouais. Et en plus, on ne peut pas imaginer mettre des centrales sur toute la Terre et dans des pays où on ne veut pas qu'il y ait de centrales nucléaires, en fait. Alors, donc, pour toutes ces raisons, je pense que se focaliser sur le cas français, sur le cas du nucléaire, etc., ce n'est pas une bonne manière de poser le problème du changement climatique.
Ça, c'est intéressant. Et Jean-Baptiste Fressot, vous venez de dénoncer le mot consommation. François Marie Briand, tout à l'heure, vous parliez de sobriété. Oui. La solution, c'est quoi? Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il faut réduire notre consommation d'énergie, en tout cas notre dépendance aux énergies fossiles, la solution, c'est quoi, François Marie Briand?
Donc, moi, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait trois leviers. En fait, le premier levier, c'est la sobriété. Donc, ça veut dire que moins de transport, moins d'objets achetés, des surfaces plus petites, des choses comme ça.
On consomme moins d'énergie.
Mais des surfaces plus petites. Oui, mais attention, on consomme moins en réduisant notre niveau de vie, d'une certaine manière.
D'accord.
Le deuxième levier.
Donc, ça, attendez. Ça, vous le dites, comme ça, ouvertement, tranquillement. La solution au changement climatique, c'est réduire notre niveau de vie.
Non, j'ai dit, il y a trois leviers, et ensuite, et ensuite, on va pouvoir discuter sur lequel on met le plus d'accent.
D'accord.
Donc, sobriété. Efficacité, ça veut dire, par exemple, j'ai ma maison, je l'isole pour avoir le même confort, mais en consommant moins d'énergie. Je peux aussi avoir une plus petite voiture pour faire le même nombre de kilomètres avec un moteur qui va moins émettre, ou je peux avoir un moteur plus efficace, choses comme ça. Donc, efficacité. Et le troisième, c'est...
Donc, les SUV, c'est terminé, par exemple.
Par exemple, c'est le SUV, c'est terminé. Mais l'isolation, c'est quelque chose qui peut être fait. Enfin bon, on peut voir un certain nombre de choses sur lesquelles des progrès peuvent être faits. On peut aussi avoir des procédés industriels qui permettent de fabriquer le même objet en consommant moins d'énergie. On l'a fait beaucoup, par exemple, sur les panneaux solaires. On fait énormément de progrès sur ce type-là. Avant, il fallait énormément d'énergie pour fabriquer un panneau solaire, c'est moins aujourd'hui. Donc on peut imaginer des procédés. Donc la technologie nous aide, en fait, sans changer niveau de vie. Et le troisième levier, c'est d'avoir une électrification, à condition que la production électrique ne soit pas carbonée. L'électrification, c'est d'avoir, au lieu d'avoir une voiture à essence, on a une voiture électrique. Au lieu de se chauffer avec du gaz, on se chauffe avec une pompe à chaleur électrique. Voilà. Donc ce sont ces trois leviers sur lesquels on peut travailler. Et les réponses peuvent être, là pour le coup, il peut y avoir un débat sur quoi il faut jouer en premier. Il y a des gens qui disent ce qu'il faut, c'est y aller à fond sur la sobriété, on va viser une sobriété heureuse.
Vous faites partie de cela ?
Non, moi je suis plutôt sur le troisième. Je pense plutôt, enfin je ne crois pas qu'on va réussir à vendre. En fait, j'aimerais bien qu'on aille sur ce premier, mais j'y crois pas. Je ne crois pas qu'on arrivera à vendre aux gens. Écoutez, on va résoudre le changement climatique et simplement vous allez moins vivre. Enfin, vous allez diminuer votre niveau de vie. Ça serait peut-être bien, mais je n'y crois pas une seconde. Du coup, je me dis que la seule chose qui est vendable auprès des populations, c'est un truc où bon, on va faire un peu de technologie. Donc typiquement, mieux isoler les bâtiments, des choses comme ça, c'est absolument essentiel. Et le troisième, moi, à titre personnel, je crois qu'on a la possibilité de fournir une électricité relativement abondante et qu'effectivement, il faut isoler les bâtiments typiquement, mais il faut le chauffage, il faut quand même les chauffer un petit peu. Hein. Il y a quand même une fois qu'on est isolé, il y a quand même un besoin d'énergie. Et cette besoin d'énergie, il doit être apporté au lieu d'être par le gaz naturel aujourd'hui, typiquement, hein, on pourrait l'apporter par des ressources de l'électricité non carbonée. Il y a des pays qui sont bien adaptés aux renouvelables. En Norvège, ils ont de l'hydroélectricité. Les pays tropicaux sont très bien adaptés à faire du photovoltaïque. Et pour la France, moi je pense que, enfin la France et un certain nombre d'autres pays, je crois au développement du nucléaire, je pense que c'est la bonne solution.
Si je peux me permettre de réagir là-dessus. Alors, j'ai deux remarques à faire. Je suis d'accord si on pose le problème comme vous l'avez posé, mais on peut poser le problème différemment. Par exemple, il y a un facteur qui est important, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire, effectivement, il y a une augmentation de l'efficacité énergétique de plein de procédés, on peut mieux isoler les maisons. Les ordinateurs, par exemple, sont devenus beaucoup plus efficaces énergétiquement. Le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire parce que c'est plus efficace, efficace, ça coûte moins cher de l'utiliser, et donc on va l'utiliser bien davantage. Et ça, sur l'informatique, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire, les ordinateurs consomment de moins en moins d'énergie, mais comme on en met partout, même là où on n'en a pas vraiment besoin, on met des supercalculateurs dans des smartphones, ce genre de choses, on a en fait une explosion de la consommation énergétique liée à l'informatique. Pareil pour le transport aérien, les moteurs sont de plus en plus efficaces, on met de plus en plus de gens dans les avions, etc. Et pour autant, les émissions de CO2 explosent parce que ça coûte de moins en moins cher de prendre l'avion, et donc on le prend de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai aucun doute qu'il y ait des gains d'efficacité, etc. Mais la chose importante, c'est de ne pas faire croire que c'est simplement des solutions techniques qui vont nous sortir d'affaires. J'ai peur qu'en disant oui, il y a des solutions techniques, etc., finalement, on ne fasse pas assez l'effort de la sobriété, qui est en fait le vrai, à mon avis, le vrai levier indispensable. En fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas une transition énergétique, c'est une amputation énergétique. Il faut amputer de notre mix énergétique 80% des fossiles à horizon 2050. C'est quelque chose de vraiment très radical. C'est pour ça que les solutions business as usual, par exemple l'efficacité, ça fait très longtemps que l'efficacité de tous les processus industriels augmente, s'améliore, mais ça c'est sur de la très longue durée, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, les machines gagnent en efficacité, c'est absolument extraordinaire, et pour autant, la consommation d'énergie n'a fait qu'augmenter. C'est pour ça que je soulignais l'importance de ce qu'il faut faire. C'est vraiment une forme d'amputation de 80% de notre mix énergétique, c'est une révolution, c'est pas du tout une transition, c'est quelque chose de beaucoup plus profond.
Mais l'historien, quand il voit ça, il est optimiste?
Non, pas du tout.
Est-ce qu'on peut se dire que société humaine, on va réussir à faire quelque chose que l'homme n'a jamais fait, peut-être aussi parce qu'il n'a jamais eu à le faire?
Alors je suis entièrement d'accord, ça rend plutôt pessimiste. Je ne suis pas pessimiste de nature, mais c'est vrai que c'est un peu la même chose. Quand j'ai vu ces courbes il y a une dizaine d'années, j'étais frappé de voir à quel point il n'y avait jamais rien qui avait décru, quoi. Donc c'était assez inquiétant, effectivement. L'autre problème aussi, c'est si on pose la question en termes de mode de vie, comme vous aviez dit, qualité de vie, niveau de vie. Ça, c'est trop englobant. Par exemple, est-ce que c'est vraiment augmenter la qualité de vie que de promouvoir un modèle pavillonnaire, individuel, avec une voiture? Je ne sais pas. On voit très bien que ça pose tout plein de problèmes sociaux. Ce n'est pas forcément, visiblement, c'est plutôt des personnes, les classes populaires qui souffrent, qui ont choisi ce modèle-là. On les a incités à choisir ce modèle d'habitation, mais visiblement, ce n'est pas forcément pourvoyeur de plus de bien-être. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment réfléchir technologie par technologie, système par système. Quoi.
D'accord. Et donc, derrière, il y a une question de discours aussi, moi qui m'intéresse. C'est-à-dire, quel est le discours qu'il faut produire? Parce que si on commence à expliquer aux gens que la solution, c'est la science, alors sans doute que la science est une part de la solution, naturellement. Mais si on commence à expliquer aux gens que, on va faire de l'efficacité énergétique, on va isoler les bâtiments, on va faire des voitures électriques, bien sûr qu'il faut le faire. Moi, si on me dit ça, moi qui suis un citoyen, qui ne suis pas un scientifique, si on me dit, on va isoler votre appartement, puis vous allez pouvoir baisser un peu le thermostat, votre voiture, moi j'ai pas de voiture, mais votre voiture, on va la remplacer par une électrique, puis bon au mal an, tout va bien se passer. Moi, je me dis, je fais rien. C'est-à-dire, j'attends qu'on m'apporte la solution. Au fond, c'est pas moi le problème. Moi, je suis pas responsable. J'attends que les gouvernements, les industriels m'apportent la solution. Est-ce que c'est ça qu'il faut dire? Ou est-ce qu'il faut avoir le courage de regarder les citoyens dans les yeux et de leur dire, les amis, on pourra pas continuer à prendre notre voiture tous les jours, tout le temps. On pourra pas continuer à prendre l'avion régulièrement pour le loisir, même si, en fait, quand on regarde à l'échelle du monde et même à l'échelle de la France, tout le monde prend pas l'avion. Donc, quel est le discours qu'il faut tenir?
En fait, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a certaines personnes, il y a une toute petite partie de la population qui est prête à faire des efforts tout seul, en se fichant du reste, mais que l'immense majorité sont prêts à faire des efforts, à condition que les efforts soient partagés. Et ils veulent surtout pas avoir le sentiment qu'eux fassent les efforts et que ce soit pas le cas des autres. Et donc il faut quand même orienter les comportements et de manière éventuellement désagréable, et donc par des taxes. Je veux dire, très clairement, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, qu'il faut rendre l'utilisation des combustibles fossiles plus cher.
Ou du rationnement. Je ne suis pas forcément d'accord.
Donc, réservé aux plus fortunés.
Parce que c'est ça le sujet, c'est que ça produit des injustices. Parce que finalement, si on la taxe carbone, elle passe à 100, 200, 300. C'était ça la prévision à 2040. La taxe carbone devait être extraordinairement élevée pour qu'il n'y ait quasiment plus de carbone dans le système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seuls les gens très fortunés auront le droit de prendre l'avion et se déplacer. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire la taxe carbone, c'est vrai que c'est vraiment la solution économique optimale. Le problème, c'est qu'on voit que ça pose des problèmes d'injustice flagrantes. Mais c'est pour ça que moi j'ai essayé de défendre, dans un papier, l'idée de rationnement, c'est-à-dire que le rationnement, on imagine que c'est quelque chose de totalitaire, ça rappelle les heures sombres de Vichy, évidemment. Mais quand on va en Angleterre, aux États-Unis, il y a un souvenir beaucoup plus positif du rationnement patriotique, parce que c'est ce qui a permis de gagner la guerre, quoi, puisque ça a permis d'alimenter le système militaire américain et anglais. Et ce qui est frappant, c'est que ça a été fait... Enfin, par exemple, la consommation d'essence civile aux États-Unis est divisée par deux en 6 mois quand on décide décide de rationner le pétrole. Ça n'a pas conduit à un krach économique. Et pourtant, les États-Unis étaient déjà un pays où il y avait déjà beaucoup de voitures.
Alors ça, moi, ça, c'est la question que je me pose. C'est que, alors peut-être, d'ailleurs, Jean-Baptiste Fosso, vous allez me dire peut-être que le parallèle historique est hasardeux. D'ailleurs, ils le sont.
Il est, évidemment.
Ils le sont parce que toujours. Mais effectivement, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont capables, quand ils rentrent dans l'effort de guerre, quand ils mobilisent leur armée, sont capables de réorganiser complètement leur industrie, sont capables de faire des rationnements drastiques de la population, et tout le monde marche dans la même direction parce qu'on est face à un péril qui, en l'occurrence, est un péril militaire, politique, international, qui est le péril nazi. Aujourd'hui, il y a consensus parmi les scientifiques qu'on est face à un péril tout aussi grand, peut-être plus grand encore, puisque là, c'était un péril climatique. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire les mêmes efforts ?
Ça, c'est vraiment très simple. C'est que pour les États-Unis ou pour les pays riches du Nord, le péril climatique n'est pas un péril imminent, en fait. C'est pour ça que l'analogie est effectivement pas terrible. Mmh. C'est qu'en fait, le changement climatique, c'est plutôt une violence lente qui s'exerce d'abord sur les plus pauvres. Sur les pays pauvres et sur les plus pauvres des pays pauvres. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ceux qui sont responsables, à savoir les pays riches, n'ont pas des motivations très fortes pour faire des vrais efforts. Ce qui est sûr, c'est que, quand je parle de rationnement, c'est pour bien faire sentir que, par exemple, le discours de Macron de dire « Ah, la France est déjà exemplaire, allez manifester en Pologne », c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ce qui est possible de faire et dans ce qu'il faudrait faire.
Alors, justement, on a une carte qui montre les émissions de gaz à effet de serre par pays. Et on se rend compte que, effectivement, l'Europe en général et en Europe, la France, sont des pays non pas exemplaires, mais on est loin d'être les pires élèves. Et il y a cette phrase qu'on entend beaucoup, la France est responsable de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Dans nos discussions, depuis tout à l'heure, il y a un implicite. L'implicite, c'est qu'on se situe quand même beaucoup dans un contexte français. Au fond, est-ce que c'est à nous de faire les efforts ? Est-ce que les efforts ne doivent pas venir avant tout de la Chine et des États-Unis ?
En fait, il faut bien voir que effectivement la France est que 1%, mais c'est parce qu'on est pas nombreux. En gros, le Français moyen il émet à peu près autant que le Chinois moyen, un petit peu moins. Mais et n'oublions pas aussi qu'on en a discuté tout à l'heure, c'est parce que aussi il y a une partie des objets consommés en France qui sont fabriqués en Chine. Ainsi, si on prend en compte ces importations, on n'est plus du tout parmi les bons élèves.
En fait, on n'est pas exemplaire.
Tout à fait, c'est ça. Mais en fait, ce que ça veut dire quand même, 1%, ça veut dire que si la France est la seule à faire des efforts, ça ne sert strictement à rien. Et ça, d'accord, c'est une vérité. C'est-à-dire que, et c'est une difficulté, la lutte contre le changement climatique est nécessairement un effort international, c'est nécessairement un effort coordonné. Mais ceci dit, si la Chine fait un effort et que le reste du monde ne fait pas d'effort, ça ne sert à rien non plus. Il faut bien être clair. Donc, effectivement, c'est forcément coordonné. Et quand même, je voudrais rebondir à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi c'est difficile, en fait, de vendre aux gens la lutte contre le changement climatique ? C'est que les gens, en particulier en France, les gens qui vivent aujourd'hui, ils n'ont pas un intérêt personnel à lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire, un mec comme moi, de toute façon, si on réduit fortement les émissions, je ne vais pas voir l'impact, je serai mort avant. Parce que l'impact, il est pour la seconde moitié du siècle.
Mais les gens ont des enfants.
Donc, voilà. Donc, ils ne peuvent... on a intérêt à lutter contre le changement climatique, intérêt directement, seulement si on pense, d'une part, aux générations suivantes, à des gens qui ne sont pas encore nés, ou alors si on pense à des gens qui sont dans des pays qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Mais est-ce que quelqu'un, un individu aujourd'hui, est-ce que moi, j'ai intérêt personnellement à lutter contre le changement climatique ? Surtout pas. J'ai beaucoup plus à perdre à dire « il faut arrêter de prendre l'avion, de la voiture, et des choses comme ça », que je vais avoir à gagner parce que je vais avoir moins de canicules en été et des trucs comme ça.
Vous partez d'un présupposé, que je conteste pas forcément, mais vous partez d'un présupposé psychologique qui est que les individus, nos concitoyens, pensent davantage à leurs pommes, à leur propre intérêt qu'à celui de leurs enfants.
Ils pensent d'abord à eux, et ils pensent aussi à leurs enfants, pas tout, mais c'est quand même plus diffus, quoi. Je pense que c'est un plus diffus. Je veux dire, quand on fait quelque chose, on a envie de voir un peu le bénéfice qu'on en retire à court terme. C'est-à-dire, si vous, quand on vous dit, tiens, paye-moi maintenant et je te donnerai quelque chose dans 40 ans, vous êtes moyen intéressé, quoi.
Okay.
En gros, c'est pour moi, il y a des deux très grandes difficultés à mettre en place des mesures contre le changement climatique. C'est un, que c'est nécessairement un effort international. Et deux, que les gens aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, n'ont absolument pas intérêt à lutter contre le changement climatique.
Mais en fait, je vous pose ces questions de manière naïve, mais l'analyste du discours que je suis par ailleurs est d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'un des ressorts de l'action politique, ça a toujours été pareil, ça a toujours été l'émotionnel, et parmi les émotions, celle qui bouge le plus les foules, hélas ou pas, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le déplorer, mais c'est un fait, c'est l'émotion de peur. Et je suis d'accord, Jean-Baptiste Fressos, quand vous disiez que le parallèle est hasardeux entre le réchauffement climatique et le péril nazi pendant la Seconde Guerre guerre mondiale, c'est que dans un cas, le péril, il est diffus, lointain, flottant, et que dans l'autre, il est à nos portes, on peut le voir, on peut le visualiser. Et j'en viens à cette question, c'est que ce qu'on voit émerger depuis maintenant 2-3 ans dans l'espace public, c'est des discours qui sont des discours de peur, qui sont des discours catastrophistes et qui sont en train de s'incarner en un mot, c'est le mot d'effondrement. De plus en plus, on nous parle d'effondrement, on nous explique qu'il faut se préparer aujourd'hui à vivre dans un monde effondré. Alors, vous n'êtes pas collapsologue, d'ailleurs je ne sais même pas exactement ce que veut dire le mot de collapsologue, vous êtes historien, climatologue, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous poser la question. Vous, en tant que citoyen et également en tant que scientifique, face à ces discours, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Baptiste Fressoz?
Moi, ça m'inspire plutôt une sorte de régression intellectuelle, c'est-à-dire que le changement climatique, on l'a déjà beaucoup dit, ça va avoir des conséquences très différenciées suivant les géographies, suivant les classes sociales, et réduire ça à un effondrement global à très court terme, ça me semble être vraiment un peu trop simple, quoi. C'est-à-dire que... Et donc voilà, c'est plutôt un grand scepticisme, en fait, surtout quand on donne des dates, quand on dit c'est 2030, 2040, je pense que c'est très contre-productif, parce que quand en 2030, on aura eu des canicules, on aura eu sans doute, je sais pas moi, peut-être des émeutes de la faim dans certains pays pauvres, etc. Évidemment, c'est très grave, c'est très triste, mais c'est pas un effondrement, en tout cas des pays riches industrialisés. Donc je pense que la question d'effondrement, elle s'est focalisée sur les pays riches, en disant c'est vraiment le capitalisme industriel qui va s'effondrer d'ici 2030-2040, et parce que il recycle en fait une écologie des années 1970 qui était la question du pic du pétrole, qui est effectivement un danger pour les pays qui consomment beaucoup de pétrole, dont les infrastructures dépendent du pétrole. Le problème, ce que nous disent les climatologues, c'est que en gros, des ressources fossiles, il y en a énormément par rapport au mur climatique. Des gigatonnes de carbone sous le sol économiquement exploitables, donc du gaz, du charbon, du pétrole, il y en a beaucoup plus, il y en a 3 ou 4 fois plus que ce qu'on doit... Alors ça, c'est... qu'on a le droit d'émettre, en gros. Si
ça, c'est vraiment intéressant, parce que moi, je me souviens de mon enfance, et l'une des questions qui était cause de peur, c'est qu'on disait « attention, bientôt, il n'y aura plus de pétrole, il faut apprendre à s'en passer ». Et c'était vraiment ça, c'était l'idée que le pétrole est une ressource limitée, ce qui est vrai, et qu'un jour, on allait épuiser les ressources de la Terre, et donc la question qu'on se posait, c'était « nom de Zeus, qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus de pétrole ?» Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la question a muté, elle a changé dans le débat public, et en fait, on se rend compte qu'on aura fait exploser la Terre bien avant d'avoir épuisé les réserves de pétrole, et que donc, en fait, la question est encore pire. C'est comment on va faire pour s'interdire de consommer Exactement. Une ressource si pratique, alors qu'il n'y a qu'à se baisser pour la ramasser. François-Marie Briand, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ?
Alors, moi, déjà, ça m'inspire que j'ai un souvenir très net de quand j'étais en 6e, donc c'était bien avant même peut-être votre naissance. Et déjà, mon professeur de sciences naturelles me disait que du pétrole, il n'y en avait plus que pour 20 ans. Donc, manifestement, il avait tort. Et du coup, sur la question des ressources, je suis très, très dubitatif. Ce qui est certain, c'est que si on veut stabiliser le climat à 2 degrés, il faut laisser des réserves dans le sous-sol. Ça, il n'y a absolument pas de doute sur la question. Est-ce que, par contre, c'est possible d'aller jusqu'à 7 degrés à la fin du siècle ? Ça, par contre, moi, j'entends des gens à qui je fais confiance, qui me disent c'est pas possible, là pour le coup, t'as pas assez de ressources fossiles dans le sous-sol pour aller jusqu'au 7 degrés. Alors, enfin, déjà 4 degrés,
c'est pas mal. Mais oui, non, vous êtes toujours... en train de nous dire que 7 degrés, c'est-à-dire la catastrophe absolue, la catastrophe terrible, vous dites ça, on n'aura même pas les moyens d'y aller.
On m'a dit, moi je suis pas compétent.
Je suis pas sûr que ça me rassure.
Moi, non, mais attendez. Moi, on m'a dit, il y a des gens à qui je fais confiance qui m'ont dit que le 7 degrés, il n'était pas possible à cause de ça. Ceci dit, la catastrophe, déjà, si on se prend 4 degrés, c'est une catastrophe monumentale.
On n'a pas besoin d'aller jusqu'à 7 degrés pour
donc,
avoir peur.
Et donc, j'ai commencé par dire que de toute façon, si on veut stabiliser le climat à un niveau acceptable, il faut laisser des combustibles fossiles dans le sous-sol.
C'est l'essentiel, c'est ça qui est impressionnant. Il faut laisser les 3/4. Enfin, voilà. C'est vraiment.
Et ensuite, ça, effectivement, c'est très très difficile à vivre, et il y a aussi des gens en qui je fais confiance qui me disent mais de toute façon arrête tes conneries, tout le pétrole qui est disponible, on va le brûler un jour. J'entends bien ça, parce que comment est-ce qu'on va interdire...
Ça, c'est hyper défaitiste.
Oui,
si on dit que tout le pétrole disponible, de toute façon, on va le brûler, alors ça y est, c'est terminé, en fait.
Mais en même temps...
Cette phrase-là, si quand vous dites ça, vous pensez que cette hypothèse-là est crédible, ça veut dire que de toute façon, c'est terminé.
Bah, en tout cas, ce qu'on voit là sur les... Je veux dire, les climatologues alertent sur le danger du réchauffement climatique depuis pas mal d'années. Hein, quand même, le premier rapport du GIEC, c'est en 1990, ça fait 30 ans quand même. Hein, et il se passe rien. Et on continue à brûler le pétrole, le charbon qui est là. Et il y a un paquet de pays qui disent « Mais vous êtes développés, nous, on a le droit de le faire aussi. » Et on a du mal à leur dire.
On peut entendre ce discours, pareil.
Mais bien entendu. Donc, exactement. Puisque j'entends ce discours, je me dis... bon, bah, est-ce que vraiment, enfin, manifestement, on ne met pas en place les mesures pour... Donc, je suis obligé de constater ça. Et donc, les gens qui me disent tout ce qui est disponible dans le sous-sol, on va le brûler, j'ai du mal à leur dire qu'ils ont tort. Donc, je rejoins une forme de pessimisme. Et tant que les gens ne sont pas totalement persuadés que le péril absolu, il est là, et les gens, ils aiment bien avoir un petit discours climato-sceptique par derrière pour justement les rassurer, quoi, parce que ça leur permet de les rassurer, puis leur permettre de vivre un peu comme ils ont envie de vivre. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que les climato-sceptiques sont dangereux, c'est que, justement, ils donnent l'occasion à des gens d'avoir une certaine bonne conscience, en fait, dans leurs actions.
Mais alors, François-Marie Briand, déjà, quand je vous écoute, je pense aux téléspectateurs qui sont devant leur télé, qui nous regardent, et qui vont sans doute prendre votre discours comme une mauvaise nouvelle. Moi-même, je suis inquiet pour mon état de santé mentale pour la suite de la journée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, quand je vous écoute, je me dis que le discours de l'effondrement, bah, j'ai l'impression de l'entendre d'une autre manière, mais dans votre bouche.
J'ai peur que nos pays, les sociétés occidentales, ont plus à craindre de la fin du pétrole que du changement climatique. C'est ça le drame, en fait. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a un paquet de pays dans le monde qui ont beaucoup à craindre du réchauffement climatique. Et nos descendants ont beaucoup à craindre du réchauffement climatique. Quand le niveau des mers, un certain nombre de zones qui ne vont plus être habitables, effectivement. Mais ce n'est pas nous. Donc c'est pas sur le court terme. Sur le court terme, pour moi, sur le court terme, l'effondrement, il ne peut venir que justement de la fin du pétrole et pas tellement du changement climatique.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Fressoz?
Moi, l'effondrement, à court terme, nous, on est tranquille. Oui, à court terme, c'est-à-dire à horizon 2030-2040, c'est pas qu'on est tranquille. Enfin, je veux dire, c'est très problématique de poser la question comme ça, évidemment. Mais c'est vrai que si on est réaliste, il n'y a pas de raison de penser qu'à 2030-2040, la France s'effondre. Vraiment, il n'y a pas du tout le début du commencement de facteurs d'effondrement globaux. Quoi. Moi, ce qui me frappe, ce serait plutôt une forme d'effondrement moral, c'est-à-dire, ou d'effondrement politique, lié en partie au changement climatique. Récemment, Sibeth Ndiaye expliquait, face aux réfugiés climatiques qui vont arriver, il faut que la France s'arme. C'est typiquement le genre de réaction que le changement climatique et le risque d'effondrement et le discours d'effondrement nourrit, en fait. C'est-à-dire des réactions plutôt de repli sur soi, en disant « nous, en France, tout va bien se passer, on va se barricader ». C'est plutôt ce type de tendance qui, à court terme, je pense, sont vraiment inquiétantes.
Moi, c'est la dernière question que je souhaitais évoquer avec vous. Parler politique un petit peu, justement. Ce qu'on voit, c'est qu'en Chine, ces 10 dernières années, le gouvernement chinois a réussi des efforts drastiques sur certains sujets, notamment le traitement des déchets et la qualité de l'air. Alors, la qualité de l'air à Shanghai, ça reste pas idéal, mais elle s'est notoirement améliorée, voire drastiquement améliorée. Et en fait, c'est pas très surprenant parce que la Chine, ils ont un petit avantage sur nous, c'est que c'est un gouvernement autoritaire. Donc, ils sont capables de prendre des décisions extrêmement rapides. Est-ce que c'est ça l'avenir de notre politique? Est-ce que pour faire face au réchauffement climatique, pour faire face au dérèglement, au péril, on va être obligé d'en passer par des régimes autoritaires?
Moi, ça me semble vraiment une idée assez problématique. C'est-à-dire, c'était un truc qui avait été beaucoup mis en avant dans les années 90 par des gens comme Luc Ferry, Marcel Gauchet. Il y avait un risque d'écofascisme. Quand je parlais de rationnement, c'est typiquement ce genre de choses. On m'accuse d'être un écofasciste, etc. Je pense que c'est vraiment faux. Et d'ailleurs, les vrais pays, enfin les pays où il y a des risques fascisants, ne sont pas du tout des pays écolos. Hein. Pensez à Jair Bolsonaro au Brésil, Donald Trump aux États-Unis. Voilà, c'est plutôt les pays autoritaires qui s'en fichent de l'écologie et de l'environnement. C'est un constat tout simple. Et les pays les plus avancés démocratiquement, les pays du Nord, etc., le Danemark, sont plutôt en avance sur ces questions environnementales et écologiques. Donc c'est pour ça que ce risque me semble alors vraiment très, 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 très éloigné.
Je pose la question plus sérieusement.
Les pays que tu as cités restent des démocraties quand même. Hein. Tu peux dire qu'ils sont autoritaires, mais enfin, je veux dire, les États-Unis, tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas une démocratie.
Non, mais disons
que
c'est une démocratie très abîmée par les récents...
Ouais, enfin, si les gens ne sont pas contents de Trump... dans 2 ans, il n'est plus là, quoi.
J'espère.
Donc, ça reste une démocratie.
Oui,
de ce côté-là.
Bien sûr. Ouais.
Je pose la question plus sérieusement. On parlait tout à l'heure, et vous le rappeliez, Jean-Baptiste Fressoz, de rationnement, de sobriété. On parlait de devoir prendre des décisions drastiques alors même que la menace n'est pas visible sous nos yeux. Est-ce que la démocratie est armée pour faire face à ça? Ou est-ce que l'autoritarisme est notre seul horizon? Ce qui serait évidemment éminemment déprimant.
Ben, moi, j'ai peur que, dans le cadre d'une démocratie, effectivement, si vous avez des élections, que vous avez un parti qui vous dit « Moi, ma priorité absolue, c'est le changement climatique, donc je vais mettre en place des mesures, je vais augmenter la taxe carbone, et choses comme ça. » Et puis, vous avez l'autre parti à côté qui dit « Mais tout ça, c'est des conneries. Ma priorité, ce sont les emplois, et donc il n'est pas question que je mette en place une forme de sobriété. » Ben, j'ai peur que ce soit le second qui gagne, quoi. Et donc, effectivement, dans une démocratie, je ne vois pas les mesures qui seraient nécessaires être mises en place. Ou de manière beaucoup trop lente.
Par exemple, sur la question du rationnement, ça peut être aussi une forme de plus grande égalité. Et ça, ça pourrait être populaire. Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer des formes de sobriété avec plus d'équité, etc., qui seraient politiquement attrayantes. C'est pour ça que je trouvais l'exemple, une fois, par exemple, la dernière fois que je vous parle de la Seconde Guerre mondiale, mais en Angleterre, il y avait un rationnement sur la nourriture aussi. Et ce que les historiens montrent, c'est que ça améliorait les conditions de santé des classes populaires en Angleterre, parce qu'ils avaient d'un seul coup accès à des choses auxquelles ils n'avaient plus accès, parce que c'était trop cher. Mais là, il y avait une sorte de politique un peu directive sur qui avait le droit à tant de calories de produits, de légumes, etc. On consommait moins de viande aussi, ce qui est plutôt bon pour la santé. Donc c'est pour ça qu'il y a sur plein d'aspects, il faut un peu, justement, c'est une question d'imaginaire et de discours. Ça, je pense que c'est important, en fait, pour rendre la chose attrayante et politiquement
possible. Pour finir sur une note positive, parce que positive, potentiellement. Quand je vous écoute, je comprends qu'on est face à un défi auquel l'humanité n'a pas été confrontée. Et là, pour rester sur cette question politique, j'ai employé le mot de démocratie, j'aurais dû, pour être plus précis, employer le mot de gouvernement représentatif, c'est-à-dire le mode de gouvernance de nos sociétés dites démocratiques. Mais le discours que vous tenez sur « il va falloir se serrer les coudes, faire commun, faire collectivité, pas simplement nous Français, et même pas simplement nous Français potentiellement… pas simplement nous Français, mais… l'humanité tout entière. C'est un discours qu'on peut entendre. C'est un discours que rationnellement on peut entendre. Et est-ce que, à ce défi auquel on n'a jamais été confronté, on ne peut pas se dire que la solution, c'est de réussir un autre défi qui est devant nous, qui est le défi de la démocratisation? Est-ce que, au fond, de pousser la démocratie un cran plus loin, est-ce que la solution, plutôt qu'un régime autoritaire, c'est pas au contraire, et d'ailleurs, Emmanuel Macron commence à tenter quelque chose avec sa grande assemblée citoyenne sur le climat, reste à savoir s'il va faire ça sérieusement ou non, on a ça sous les yeux. Mais est-ce que l'une des solutions, c'est pas de dire, on va faire des jurys citoyens, on va faire une démocratie participative, et on va laisser les citoyens se saisir eux-mêmes de ces enjeux et réaliser qu'il nous faut prendre, nous ensemble, collectivement, des décisions drastiques.
Je dirais que c'est la seule voie, en fait, effectivement, c'est d'imaginer une forme démocratique de descente énergétique, c'est l'enjeu central. J'avais un bon exemple pour l'affaire de Jair Bolsonaro. En fait, la question, c'est plutôt les pétromonarchies, où là, pour le coup, c'est l'Arabie Saoudite, etc., c'est vraiment pas des démocraties, et c'est les plus gros émetteurs par tête de pipe, c'est de très loin les plus gros émetteurs.
François-Marie Vraiment, vous êtes optimiste de ce point de vue-là ou...
En fait, sur le coup de gouvernance politique, vraiment, je me sens pas compétent et j'ai pas envie de prendre position, parce que j'ai trop peur de dire des bêtises. Par contre, je voudrais insister pour terminer sur le fait que dans le rapport du GIEC, le SR 1.5, qui regardait justement qu'est-ce qui était possible pour stabiliser le climat à 1,5 et 2 degrés, il montrait quand même dans ce rapport qu'il y avait énormément de co-bénéfices, c'est-à-dire des bénéfices sur la santé, sur l'égalité, choses comme ça, à lutter contre le changement climatique. Donc si, oui, il y a aussi, même si jusqu'à présent j'ai eu un discours qui peut paraître pessimiste, il y a aussi un certain nombre de points qui peut être vu comme très favorables à cette lutte contre le changement climatique, et c'est bien explicité dans le rapport du GIEC, que j'invite vos téléspectateurs à regarder.
On peut imaginer une société plus sobre, mais plus heureuse.
J'espère.
Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle deux livres que vous avez chacun publiés. Jean-Baptiste Fressoz, L'Apocalypse joyeuse, aux éditions du Seuil. Et vous, François-Marie Bréon, vous avez co-édité L'Atlas du climat, aux éditions Autrement. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour cette discussion. Et puis quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Viens voir les docteurs. À nouveau une discussion sur un grand enjeu de société. Merci à tous.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Ça fera plaisir à Clément Viktorovitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ça me fera plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Viens voir les docteurs en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télévision sur la chaîne Click TV. Quant à l'émission Click, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal. À très bientôt. Gros bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.